Cinquième étape, grandir dans l'intimité avec Dieu, la charité d'Abraham. On a un programme assez chargé pour cette cinquième étape. On va voir quatre passages. Alors, je ne les lirai pas tous et vous aurez donc du travail à faire. Allez les lire vous-même et reprendre un peu les clés que je vais vous donner sur ces passages. Mais on arrive vraiment à un moment où Abraham va commencer à être transformé par ce cheminement qu'il a avec Dieu depuis voilà, un certain nombre d'étapes. Et donc, c'est un moment important encore de sa vie. Alors, le premier passage que l'on va voir, c'est le renouvellement de l'alliance et l'emprise progressive dans la chair d'Abraham de cette alliance. Vous vous rappelez, on avait vu cette première alliance unilatérale, voilà, où simplement Dieu s'engageait. Abraham, suite à cette alliance unilatérale, avait encore fait l'expérience, j'allais dire la viscérale et très douloureuse, de sa médiocrité, de son péché. Voilà, et on avait vu que là où le péché, l'échec, a abondé, la grâce de Dieu peut surabonder. Et donc maintenant, en fait, Abraham est apte à renouveler l'alliance avec Dieu au chapitre 17. Je ne vais pas lire le texte, je vais juste prendre quelques points essentiels. La première chose, c'est que dans ce renouvellement de l'alliance, cette fois-ci, Dieu va proposer à Abraham de participer. Vous vous rappelez, la première alliance était unilatérale, il n'y avait que Dieu qui s'engageait. Voilà, mais maintenant que Abraham a bien compris, je pense, que par lui-même, ça allait être compliqué, et qu'il y avait quelque chose, voilà, que viscéralement il pouvait pas faire. C'était l'enseignement de la semaine dernière. Voilà, il a sans doute acquis une forme d'humilité qui le rend apte maintenant à vraiment participer. Voilà, c'est les humbles qui peuvent participer à l'œuvre de Dieu. Et donc cette fois-ci, hein, au chapitre 17, vous lirez le texte, mais Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face, hein, sois parfait et observe l'alliance que je conclue avec toi. Il invite Abraham à observer des commandements, une alliance, et notamment il va l'inviter aussi à circoncire tous les mâles de son clan, de sa tribu, en signe de cette alliance. Et aussi à travers cette circoncision, c'est une manière de nous dire que l'alliance que Dieu conclut avec Abraham, dans laquelle maintenant il est invité à participer, eh bien, cette alliance s'inscrit de plus en plus profondément dans la chair. À travers la circoncision aussi, c'est sur le lieu même qui peut donner la vie, hein, que cette alliance est signifiée. Et donc, voilà, on a vraiment une étape. Hein, lorsque je suis devenu humble, lorsque j'ai vraiment compris que l'alliance tient sur Dieu et sur lui seul, alors je peux participer. Et puis, dans ce texte aussi, Dieu donne un nouveau nom. Il change le nom d'Abraham en Abraham. C'est à peu près le même nom, mais voilà, encore pour nous signifier qu'il y a une transformation progressive qui est en train de s'opérer, voilà, sans que ça change fondamentalement l'identité, hein, entre Abraham et Abraham, c'est à peu près la même chose. C'est la même chose, Sarai va devenir Sarah. Voilà, mais il y a une transformation, une œuvre qui est en train de s'accomplir, une emprise progressive. Et voilà, pour la première fois, eh bien, Abraham est invité à commencer à participer, à observer cette alliance avec Dieu. Et bien sûr, Dieu, donc d'ailleurs, il va circoncire tous les mâles qui sont déjà nés, dont Ismaël. Et puis Dieu lui rappelle, oui, je vais bénir Ismaël, hein, qui est né de Hagar, mais voilà, je vais te donner un fils issu de Sarah, voilà, que tu appelleras Isaac, il n'est pas encore né, mais voilà, hein, Dieu bénit le raté d'Abraham d'une certaine manière, hein, ou en fait quelque chose et accorde sa grâce, et en même temps, voilà, Dieu ne renonce pas à son plan et ne se soumet pas à la mesure d'Abraham, mais veut vraiment l'emmener plus loin. Alors s'ensuit après ce renouvellement de l'alliance, hein, et cette fois-ci Abraham s'engage davantage, s'ensuit alors trois épisodes qui montrent que Abraham est en train d'être transformé. S'ensuit d'abord ce qu'on appelle l'hospitalité d'Abraham. Vous connaissez ce passage, hein, où Abraham va accueillir trois personnages, c'est en fait Dieu, hein, qui passe dans sa vie, et Abraham va leur donner l'hospitalité. En fait, Abraham commence vraiment à accueillir et à demeurer dans la présence de Dieu. Pour nous, c'est aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire que cette transformation que Dieu veut faire dans notre vie va pouvoir se produire que si nous passons du temps avec Dieu, que si nous prenons le temps de l'accueillir, dans notre vie. Et il y a un moment, voilà, dans la vie spirituelle ou dans notre itinéraire de foi, si on veut vraiment que Dieu agisse, si on veut vraiment sortir de, voilà, de cette incapacité, si on veut vraiment être transformé par Dieu, il n'y a qu'un seul moyen pour cela, c'est la vie de prière, c'est-à-dire laisser du temps à Dieu pour être accueilli dans ma vie à travers la vie de prière. Donc je vous engage bien sûr, voilà, chacun de vous, à apprendre à prier, à trouver un parcours, une méthode, voilà, pour vraiment apprendre, comme Abraham le fait, à accueillir régulièrement Dieu, à lui faire l'hospitalité chez vous pour qu'il puisse vous transformer. Et on voit donc à ce moment-là aussi que suite à cette visite, Dieu se livre de plus en plus à Abraham et lui explique un peu ce qu'il va faire. Et notamment, il nous est dit donc à la fin de ce passage de l'hospitalité d'Abraham, le Seigneur s'était dit « Vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire ?» Alors qu'Abraham deviendra une nation grande et puissante, que par lui se béniront toutes les nations de la terre. Voilà. Est-ce que je vais lui cacher ce que je vais faire ? Et en fait, Dieu partage à Abraham un de ses soucis, qui est les graves péchés et injustices qui se commettent dans les villes de Sodome et Gomorre. Et Abraham va entrer alors dans une relation avec Dieu où il va intercéder pour Sodome et Gomorre. En fait, c'est beau de voir qu'à un moment, Abraham, marchant depuis un certain temps avec Dieu, l'accueillant de plus en plus, est capable de sortir de sa préoccupation à lui pour entrer aussi dans les préoccupations de Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait en fait que quand elle priait, elle cherchait en fait à savoir quel était le caractère du bon Dieu. Elle cherchait à savoir qu'est-ce qui préoccupait Dieu. Et donc, Abraham, dans cette intimité croissante avec Dieu, est déplacé de ses préoccupations, ses soucis aux préoccupations de Dieu, à la manière de voir de Dieu, à ce qui habite le cœur de Dieu. Il entre dans cette intimité de plus en plus grande et il se décentre de lui-même et il va commencer pour la première fois, et ça c'est un passage assez beau, vous vous rappelez, hein, l'appel de Dieu c'était dire « Sois une bénédiction, en toi se béniront tous les clans de la terre ». Et là, il y a une ville qui fait n'importe quoi, qui s'appelle quand même deux villes, Sodome et Gomorre. Dieu dit « C'est la catastrophe, elles vont être détruites ». Et là on voit que Abraham commence pour le coup à entrer dans sa mission puisqu'il se met à intercéder pour Sodome et Gomorre. Voyez, il a une relation avec Dieu, il dit « Mais Seigneur, s'il y a 50 justes, tu vas quand même les épargner, etc. etc. » Voilà, c'est un peu une négociation à l'orientale. Et c'est beau de voir qu'Abraham commence à entrer dans sa vocation qui est de faire en sorte de devenir une bénédiction pour les autres. Alors ça n'a pas marché encore cette fois-ci, il n'est pas assez audacieux, je vais y revenir. Et finalement, la négociation ne va pas arriver à son terme, mais il commence vraiment à entrer dans sa vocation, dans sa mission. Alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ça c'est intéressant aussi de le comprendre. C'est en fait, Abraham dit, mais en fait tu vas peut-être trouver l'une ou l'autre personne juste et à cause de ces justes-là, tu vas épargner la ville. En fait, Abraham intercède sur la justice des hommes. Un peu plus tard dans la Bible, il y a un autre grand croyant, Moïse, qui vivra lui aussi un moment d'intercession et de négociation pour que Dieu épargne le peuple. Moïse, quand il redescend du mont Sinaï avec les tables de la loi, le peuple d'Israël s'est perverti, Dieu est furieux et il dit à Moïse, « Ton peuple s'est perverti, maintenant je vais les anéantir et de toi je ferai une grande nation. » Et en fait, Moïse, à ce moment-là, va négocier avec Dieu et il va dire à Dieu, « Attends, c'est ton peuple d'abord, c'est pas mon peuple. » Et puis il va dire à Dieu, « Mais si tu les détruis, que vont dire les païens ?» Puisque tu t'es engagé jusqu'à la mort par promesse de faire sortir ce peuple, les personnes vont dire que tu es inconséquent, que tu es incohérent, que tu ne tiens pas ta promesse. En fait, et donc Dieu va épargner, suite à cette négociation de Moïse, Dieu va épargner le peuple d'Israël. En fait, Moïse a compris quelque chose d'important, c'est qu'en fait, il ne fallait pas intercéder sur la justice des hommes, mais il fallait intercéder sur la justice de Dieu. Ce qu'Abraham n'a pas encore compris, mais Abraham commence à entrer dans sa mission. Voilà. Et un jour, voilà, un autre croyant, Moïse, comprendra que pourquoi est-ce que tout le monde peut être épargné, comment est-ce qu'une prière va porter du fruit, comment est-ce qu'une mission va porter du fruit, c'est lorsque je la fonde sur la justice de Dieu et non pas sur la justice des hommes et non pas sur ma propre justice. Voilà, mais en tout cas, c'est beau de voir que Abraham commence à entrer dans sa mission. Dans ses négociations, il commence aussi à devenir un familier de Dieu. Il y a ces grands saints qu'on connaît, par exemple, hein, qui étaient audacieux vis-à-vis de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire de Sainte Thérèse d'Avila qui fondait des couvents. Et puis un jour, elle traverse une rivière, tout se renverse, enfin c'est la catastrophe, elle n'en peut plus. Et elle dit à Dieu, ah, je comprends que vous ayez aussi peu d'amis si vous les traitez ainsi. Bah, en fait, c'est cette audace, cette familiarité de ces saints en fait, qui ont vraiment accueilli finalement la bonté de Dieu et qui se croient tout permis avec Dieu d'une certaine manière, non pas pour faire du chantage, mais parce qu'en fait, ils connaissent Dieu de l'intérieur. Comme disait Sainte Thérèse d'Enfant Jésus aussi, en fait, je sais comment faire craquer le bon Dieu. Voilà, mais c'est en intercédant sur sa propre justice, sur son amour. Voilà, parce que voilà, comme un père craque toujours pour son petit qui court vers lui, eh bien le bon Dieu craque quand on lui demande les choses de cette manière-là. Et donc Abraham, voyez, entre progressivement dans cette intimité, dans cette familiarité avec Dieu qui le transforme et qui fait que imperceptiblement, même sans s'en rendre compte, il commence à entrer dans sa mission. Il commence à entrer dans la charité, dans l'attention aux autres, dans le décentrement par rapport à lui-même. Et alors, c'est le dernier épisode que je veux commenter aujourd'hui. Il y a quelque chose qui montre cela de manière très forte. C'est qu'au chapitre 19, c'est Sodome et Gomorrhe, mais au chapitre 20, Abraham va refaire la même bourde qu'il avait fait avant, c'est que c'est avec quelqu'un d'autre, hein, il rencontre un roi qui s'appelle Abimélec et il refait passer, par peur sans doute, sa femme pour sa sœur. Donc rebelote, même histoire, voilà. Je pense qu'on a tous l'habitude hein, de tomber dans certains péchés récurrents. Voilà, on a tous un peu l'habitude de raconter toujours la même chose. Vous voyez, pour Abraham, c'est la même chose. Il retombe dans un péché récurrent, dans une peur récurrente. Il recommet la même bourde. Mais par contre, quand on compare les deux textes, en fait, on voit qu'il y a une différence fondamentale. C'est que, après avoir commencé à errer et à tomber, en fait, à un moment, Abraham va se ressaisir. Et à cause de lui, à cause de sa lâcheté, Abimélec a pris Sarah pour épouse encore. Et les femmes d'Abimélec sont tombées stériles. Voilà. Et donc Abraham avait recommencé à ne pas être une bénédiction pour quelqu'un, mais être plutôt une malédiction. Simplement, en cours de récit, les choses changent. Ce n'est pas du tout le même dénouement. C'est qu'en fait, Abraham se ressaisit et va prier pour les femmes d'Abimélec qui sont devenues stériles, pour qu'elles soient guéries de leur stérilité, elles vont l'être. Alors que sa propre femme à lui est stérile. Mais donc, il va prier pour d'autres. Et donc, on peut dire qu'il chute, mais il a appris à chuter. Il est quand même un peu transformé et dans sa chute, il se relève rapidement ou plus rapidement et en fait, il intercède pour Abimélec qui est un païen et il va devenir une bénédiction pour ce païen puisque ces femmes, les femmes d'Abimélec vont sortir de leur stérilité. Voilà. Et donc, on voit combien, eh bien, Abraham progresse et combien imperceptiblement il est transformé de l'intérieur, à travers ce cheminement, cette intimité croissante avec Dieu. Et même s'il retombe dans des ornières, en fait, ces ornières n'ont plus le même impact. Elles sont aussi habitées par la grâce de Dieu qu'Abraham sait faire advenir, même voilà, dans ses erreurs, dans ses manquements, dans ses chutes. Voilà, un peu comme au judo, on apprend à chuter pour ne pas se faire mal. Eh bien, c'est la même chose pour Abraham. Voilà, j'aime bien cette phrase de saint Augustin qui dit « Lorsque tu as péché, hein, relève-toi, chante et marche ». Et puis bien sûr, vous connaissez encore hein, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, toujours la même voix de la confiance. Hein, voilà, je ne me découragerai jamais parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance et donc hein, je me relève aussitôt. Voilà, ce qui fait le plus de mal à Dieu, c'est le manque de confiance. Le fait qu'on ne se relève pas, ce n'est pas notre chute. Voilà. Mais par contre, si on se relève tout de suite, parce qu'on vit avec lui régulièrement, eh bien, la charité de Dieu, progressivement, fait son œuvre en nous et nous apprend à faire le bien, même à travers nos pauvretés et nos limites. Voilà ce que vit Abraham. Alors, quelques questions maintenant pour un partage, qui reprennent ces grands moments que nous avons vus dans cet enseignement. Première question que vous pouvez peut-être noter sur votre petit carnet, hein. Afin de vous encourager, quelles sont les vertus que j'ai commencé à développer et qui sont à encourager, même si elles ne sont pas encore totalement affermies et efficaces? Quelles sont les vertus que j'ai développées et qui sont à encourager, même si elles ne sont pas encore totalement affermies et efficaces? Deuxième question. Vous voyez, on a dit que maintenant l'alliance était bilatérale, c'est-à-dire que c'est le moment maintenant peut-être de vous engager, de prendre des décisions. Quelles sont les décisions que je prends pour répondre à l'appel de Dieu? Je vous avais parlé d'avoir un carnet qui serait un carnet à parole où vous marquez ce que Dieu vous dit. Ce carnet à parole peut devenir aussi ce qu'on appelle un carnet de sanctification, c'est-à-dire un carnet sur lequel je note quelques décisions et j'essaye de m'y tenir. Et notamment, ça pourrait être pas mal de vous engager sur une décision par rapport à la prière, voyez, et de l'inscrire sur ce carnet et voilà, d'essayer chaque jour de vivre un temps d'hospitalité où vous accueillez Dieu dans votre vie pendant 5 minutes, 10 minutes, à vous de choisir. Commencez petit si vous l'avez, si vous le faites pas chaque jour, mais vraiment pour prendre ce temps d'accueillir Dieu, sa parole, de vous laisser transformer par lui, d'apprendre à le connaître. Et quand vous prenez un temps de prière et que vous lisez la Bible, posez-vous une seule question, quel est le caractère du bon Dieu dans ce texte, voilà. Qu'est-ce que ce texte me dit de Dieu? Qu'est-ce qui habite le cœur de Jésus dans cet évangile? Qu'est-ce qui habite? Quelle est sa passion? Quel est son désir? Quel est son souci? Plutôt que de chercher simplement à résoudre vos questions et vos soucis en lisant la Bible, eh bien, lisez-la en essayant de voir qu'est-ce que Dieu dit de lui-même? Qu'est-ce qu'il a envie de partager? Troisième question, eh bien, c'était la même. Comment je suis un familier de Dieu, audacieux, partageant son intimité? Voilà, que puis-je écrire? Peut-être vous pourriez faire ça. Que puis-je écrire déjà sur le caractère de Dieu? Ou sur le caractère de Jésus? Quelle est la qualité que j'aime chez Jésus? Vous voyez, pour se décentrer de vous et faire de ce carnet aussi et de ce parcours un lieu d'écoute de ce qui habite le cœur de Dieu. Ce qui était dit à Abraham, je ne vais pas cacher à mon serviteur Abraham ce que je vais faire. Dieu le rend participant de la manière dont lui, Dieu, vit les choses, dont lui, Dieu, voit les personnes. Et puis, dernière question, comment je gère mieux mes chutes et mes insuffisances? Voilà, comment est-ce que je gère mieux mes chutes et mes insuffisances? Voilà, ça vous fait des petits exercices, des petites questions. Vous n'êtes pas obligé de les prendre toutes, hein, mais peut-être l'une ou l'autre, celles qui vous sembleront les bonnes. À bientôt!